Et donc j'aimerais vous parler maintenant d'un autre sujet qui sur la question de la maturité. Pourquoi choisir ce sujet dans le cadre d'une retraite sur le discernement? Parce que vous le savez ou pas, mais parmi les causes de déclaration de nullité de mariage, il y a comme cause de déclaration de nullité de mariage la question du manque de maturité qui est retenue. Et c'est retenu parce qu'on dit que c'est un manque de liberté. La liberté, vous avez vu, qui est presque une condition de validité du mariage tel que l'Église le conçoit. Et donc le manque de maturité est un manque de liberté. Et donc du coup de travailler sur ces sujets-là, sujet qu'on aborde relativement peu, je trouve, dans la préparation au mariage, la maturité, alors que c'est quelque chose de très central. La maturité, comment, d'abord une introduction, comment est-ce qu'on peut la définir? On peut la définir de façon suivante, on peut dire que c'est une certaine harmonie intérieure, c'est une certaine unification, une perfection dans l'amour, un équilibre, que ce soit au plan humain dans le rapport avec les autres, que ce soit au plan spirituel dans le rapport avec Dieu. Et l'immaturité, au contraire, l'immaturité, ce serait autre chose, c'est, on peut dire, deux formes d'immaturité, deux types d'immaturité. Premièrement, un sentiment de victime, la non-acceptation de ses propres dons, la non-acceptation de soi-même. On remet toujours la faute sur les autres. Parce que mon père ceci, ma mère cela, etc. Voilà. On sent qu'il y a une sorte de victimisation qui est une forme d'immaturité. Et puis, au contraire, on veut au contraire attirer, mais c'est la même chose, mais à l'envers, attirer toute l'attention sur soi, un peu le nombril du monde, voilà, et vouloir être ça. Il y a des immaturités qui peuvent venir des expériences que l'on a vécues, qui nous ont blessés, ou alors des immaturités qui peuvent venir de l'éducation. Je vous ai parlé ce matin de la question de la théorie de l'attachement et des blessures qu'il peut y avoir par rapport au manque d'attachement, de figure d'attachement stable qui nous sécurise dans l'amour. À quoi on voit qu'on est sécurisé dans l'amour? On est sécurisé dans l'amour parce que on est sûr de l'amour de l'autre en l'absence de l'autre. Sûr de l'amour de l'autre en l'absence de l'autre. C'est comme ça qu'on voit qu'on est sécurisé dans l'amour. Il y a un document de Vatican II qui parle de cette question de maturité qui, plutôt dans un document qui a à voir sur la formation des séminaristes, et qui distingue en trois points en quoi consiste la maturité. Premièrement, l'égalité d'esprit. Deuxièmement, la prudence dans les décisions. Et troisièmement, une bonne appréciation des événements et des personnes. Égalité d'esprit, prudence dans les décisions, bonne appréciation des événements et des personnes, qui sont les trois critères qui nous permettent de juger en fond de notre maturité ou immaturité, le cas échéant. Tout d'abord, l'égalité d'esprit. L'égalité d'esprit a à voir avec la partie affective de nos vies, notre sensibilité. Et cette question de sensibilité, elle est très importante parce qu'il y a des personnes qui sont dans une forme d'ascenseur émotionnel. Alors je recevais un couple la semaine dernière, etc. C'est assez étonnant. Bon, je ne les accompagne pas, mais ils étaient venus en retraite personnelle à l'abbaye, demandaient à rencontrer un frère. Moi, je les ai reçus, etc. Bon, lui, devant elle, me fait la déclaration qu'il veut mettre fin à leur relation. Bon, tout en étant très ému, avec beaucoup d'émotions, etc. Le lendemain, je les retrouve bras dessous, en riant comme pas possible. Attends là, qu'est-ce que tu me dis là? Ça, c'est l'ascenseur émotionnel. Si vous êtes dans une situation comme ça, mais partez en courant, quoi. Je veux dire, vraiment, parce que forcément, c'est vous êtes face à une forme de manipulation, mais qui a pour base l'affectivité. Et l'égalité d'esprit, c'est justement, c'est une affectivité qui est équilibrée. C'est-à-dire une affectivité qui prend pas trop le dessus, j'allais dire, d'une certaine manière. On voit des personnes qui sont cyclotymiques, comme ça, avec des affectivités, des sensibilités, plus exactement, en haut et en bas, et qui ont du mal à se stabiliser, justement, dans une égalité d'esprit. Mais aussi, il y a des sensibilités qui sont très particulières. Il y a des personnes qui. C'est ce qu'on appelle les zèbres. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne parle pas de l'animal avec à rayures. Hein, je parle. Les zèbres, c'est une des. En fait, c'est plutôt la psychologie, voire la psychiatrie, qui a qualifié des personnes comme ça de zèbres. Il y a un livre qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux. Et au fond, c'est des personnes. Habituellement, la personne humaine a une intelligence en escalier. C'est-à-dire que, bon, on pense à une chose, puis ensuite à une autre. Il y en a qui montent vite les escaliers, d'autres plus lentement, etc. Mais d'autres, c'est pas du tout comme ça. Leur affectivité est tellement développée, leur sensibilité est telle, c'est qu'ils ont une intelligence en arborescence. C'est-à-dire que d'un seul coup, d'un seul, ils voient énormément de choses. Il y a beaucoup d'infos comme ça qui. Et donc, c'est des gens, c'est beaucoup des surdoués hein, qui sont comme ça, c'est qui captent, voire qui ont un certain mélange d'essence. C'est-à-dire que, par exemple, je me rappelle avoir accompagné un couple, elle me disait. Pour moi, les mots ont des couleurs. Attends, bon, attends. Là, je t'explique. Là, c'est noir sur blanc. Moi, je suis bête, mais bon, c'est noir. Non, moi, c'est bleu. Les musiques ont des couleurs. Les musiques ont des goûts. C'est-à-dire que des personnalités qui ont une richesse de sensibilité qui fait que leur intelligence perçoit de façon très complète, assez, encore une fois en arborescence, énormément d'infos. Et donc ces gens-là ont du mal à structurer leur sensibilité, justement, ont du mal à, parce que ils ont trop d'infos à la fois. Ils captent trop d'infos. Et c'est des personnes qui, parfois, en tout cas enfants, peuvent être en échec scolaire, mais qui sont particulièrement avec une capacité intellectuelle assez étonnante, parce que mais c'est une intelligence en arborescence, c'est pas une intelligence en escalier. Et donc, du coup, c'est intéressant de se poser la question, quel est, au niveau de ma sensibilité, qui était. De même, ceux qui ont une sensibilité artistique, créative, ceux qui sont dans la créativité, forcément, c'est des formes de sensibilité. Il y a des sensibilités avec lesquelles je peux vivre, il y en a d'autres avec lesquelles je ne peux pas vivre. Et ça, c'est important, cette question. C'est ce qu'on appelle la cogitative. Hein, cogitative. Ça, on en parle rarement, mais c'est très important. C'est Aristote qui en parle dans les sens internes. Vous savez, il y a les cinq sens externes et il distingue, Aristote, trois sens internes, la mémoire, l'imagination et la cogitative. La cogitative, au fond, c'est se toucher intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui convient à telle situation dans tel moment? Imaginons que là, rassemblé pour une retraite, un frère se pointe en maillot de bain. Bon, c'est quand même particulier. Bon, pourquoi pas? Il n'y a rien contre la foi et les mœurs d'être en maillot de bain, etc. Il y en a bien qui vont en robe de bure sur les plages, évangéliser, etc. Bon, pourquoi pas? Mais bon, on se dirait, mais c'est quand même particulier. De même, imaginons. Imaginons que toute la. Tout le topo, je vous parle comme ça. Alors, au début, on rit, mais après, ça énerve. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Et ça, c'est la cogitation. Et ça, c'est formé par. Cogitative, il y a cogito, donc il y a formé l'intelligence. Mais c'est la connexion entre l'affectivité et l'intelligence. Tel que. Et ça, c'est très important, parce que c'est. Dans le fait. Beaucoup d'engueulades sont au niveau de la cogitative, entre guillemets. C'est il me semble plus opportun de faire telle chose à tel moment. Et à l'autre, il lui semble tel opportun, plus opportun, ou pas du tout opportun de faire la même chose au même moment. Parce que ça, c'est. J'ai une sensibilité qui a ce qui me paraît un toucher intérieur qui me dit, tiens, telle chose est opportune à ce moment-là, telle chose n'est pas opportune. Un sens commun, on pourrait dire, hein, qui est moins commun de tous les sens. Et chacun, là, de façon particulière, parce qu'en fonction de son type d'intelligence et en fonction de son type d'affectivité, de sensibilité. Et cette connexion entre intelligence et sensibilité, ce qu'on appelle la cogitative. Et ça, c'est quelque chose cette manière de ressentir, on en parlera tout à l'heure, événements et personnes, cette manière de percevoir qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui est opportun, qu'est-ce qui est le bon sens, qu'est-ce qui est... Et on le voit clairement, par exemple, en communauté. Il y a des frères qui planent, complètement. Tu vois, ils planent, les pauvres frères, bon, mais ce n'est pas de leur faute. Non, mais c'est leur cogitatif, si tu veux. C'est un problème à ce niveau-là, c'est que... Ils ne savent pas quoi faire, à quel moment il faut le faire. Bon, ils passent devant un lavabo dont le robinet est allumé. Bon, ils passent. D'autres, ils passent et ils éteignent le robinet. Voilà. C'est une question de connexion réelle. C'est l'intelligence qui fait que tu es connecté au réel. Mais un autre, c'est pas qu'ils le voient, c'est pas qu'ils soient méchants ni quoi que ce soit. C'est que ils ne le voient pas. Il y en a qui ne voient pas les choses. Il y en a qui voient. Alors, donc, je trouve ça intéressant de réfléchir justement sur la question de l'égalité d'esprit qui est en lien avec notre affectivité, qui peut parfois nous jouer des tours. Hein, et du coup, voilà. Si vous avez une très grande sensibilité, posez-vous la question. Déjà, comment apaiser, peut-être, que ce soit apaisé, c'est en même temps une richesse, une sensibilité. Hein, j'ai parlé de la dimension, comment on appelle ça, artistique. Mais c'est vrai qu'une personne qui a une dimension artistique, créative, c'est tout à fait différent d'une personne qui travaille dans le BTP, par exemple. Voilà, et donc du coup, oui, tu travailles dans le BTP, non ? Ah, quelqu'un qui travaille dans le BTP, d'accord. Mais c'est très bien. C'est pas qu'il y a bien et mal, c'est que c'est juste des sensibilités qui ont été formées de façon différente. De même, la question culturelle. Moi, j'ai accompagné, par exemple, un couple d'origine africaine et français de nationalité, mais d'origine africaine. Et ils me disent, nous, on ne se serait pas marié avec une personne qui ne soit pas d'origine africaine. Parce qu'il y a trop de différences. Par exemple, quand le garçon va faire la demande de la main de la jeune fille, etc., il faut qu'il vienne accompagné de sa famille. Parce que sinon, l'autre, il dit, t'es fâché avec ta famille, à ce point-là que tu ne viens pas avec ta famille demander la main de ma fille. Je ne vais pas te la donner. Alors que si vous pointez avec votre maman pour demander la main de votre douce, attends, là, celui-là, il a un petit problème de diplôme, on va peut-être... on va l'enlever, voilà. Mais ça, c'est culturel. Et je pense que ça, la question des milieux, alors je parlais de la question des origines, des familles d'origine, etc. La question des milieux, c'est une certaine sensibilité qui a été formée. C'est une certaine... convenances qui a été formée. Qu'est-ce qui convient de faire? Ça, c'est la cogitative. Qu'est-ce qui convient de faire? À quel moment et de quelle manière? Et les engueulades, c'est souvent là-dedans. Bon, voilà, c'est juste pour vous éveiller à quelque chose dont on parle, je trouve, relativement peu et qu'Aristote a mis à jour et je trouve ça intéressant comme connexion entre l'intelligence et la sensibilité, hein, qu'il appelle la cogitative. Hein. Et donc, si vous avez, en termes de sensibilité, une sensibilité exacerbée, par exemple, et qui vous joue des tours, et qui vous... un peu cyclotimique. Vous savez que la personne cyclotimique, ce n'est pas celui qui fait la bicyclette, mais la cyclotimique, c'est des hauts et des bas, l'ascenseur émotionnel. Vous voyez, tout un coup complètement exalté, l'autre coup complètement dépressif. Bon, ça, c'est des personnes cyclotimiques, etc. Posez-vous la question, voilà... Comment est-ce que vous pouvez apaiser cette sensibilité? Sensibilité, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est là. C'est aussi une richesse, une sensibilité. C'est juste comment faire pour l'apaiser. Comment faire pour que ce ne soit pas elle qui prenne le gouvernail? de votre vie. Que ce ne soit pas juste le ressenti qui soit le gouvernail de votre vie. Parce que le ressenti n'est pas forcément juste, n'est pas forcément droit, n'est pas forcément bon. Je veux dire, voilà, il peut y avoir, encore une fois, du ressenti parce que je suis en colère, parce que je suis dans un état de fatigue, parce que ceci, parce que cela. Ok ? Ensuite, la deuxième manière, en tout cas, expression de la maturité, c'est la prudence dans les décisions. Donc la prudence est une vertu cardinale, comme les quatre points cardinaux. Quelles sont les autres vertus? Je vous écoute. Tempérance. Force. Non. Le? Non. Non. Justice. Tempérance qui gère tout ce qui est le contact avec les choses qui sont source de plaisir immédiat. Hein. Vous avez montré de la tempérance face aux moules frites, surtout si vous êtes originaire du plat pays. Du coup, voilà, du coup, pour être. La force, c'est le courage pour aller au-devant de quelque chose, donc de difficile ou de soutenir une situation difficile. Et la justice, c'est ce qui règle nos rapports avec les autres. C'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Et donc, il y a une connexion des vertus. Et la prudence, intéressant, la prudence, c'est pas appuyer sur le frein. On a souvent une fausse idée de la prudence. La prudence, c'est ordonner les moyens aux fins et ordonner les finalités entre elles. C'est-à-dire que ordonner les moyens aux fins, vous avez décidé, bon, prenons un cas tout simple, de venir en retraite ce week-end ici, vous vous êtes inscrit, vous avez versé votre acompte, vous avez réservé le billet de train, vous êtes monté dans le train dans le meilleur des cas, etc., etc. Bon, et vous êtes arrivé ici. Ça, c'est la prudence. La prudence, c'est l'exercice de la vertu. C'est ordonner les moyens aux fins et hiérarchiser les finalités en tête. Qu'est-ce qui est très important? Qu'est-ce qui est moyennement important? Qu'est-ce qui n'est pas important? Ça, c'est la vertu de prudence. La vertu de prudence, donc c'est une vertu, vous connaissez la définition de vertu, disposition permanente acquise par la répétition des actes. C'est-à-dire que on ne naît pas prudent, juste, fort ou tempérant, on le devient. Et on le devient par la répétition des actes. C'est la répétition des actes de prudence qui fait de nous un homme, une femme prudent, etc. Et ainsi de suite pour juste et tempérant et fort. Donc c'est un peu comme des gammes. Plus vous virtuose, ça vient de ça. Virtuose, ça vient de vertu. C'est celui qui possède en lui là parce qu'il a répété 1000 fois sur le clavier ses gammes, etc. Maintenant, c'est vraiment un virtuose du piano, etc. Donc, cette vertu de prudence, c'est-à-dire cette manière de prendre les décisions, elle a 3 étapes. La première, c'est la réflexion ou délibération. Voilà, c'est la délibération, je réfléchis, et singulièrement quand on doit se marier, c'est un acte qui sollicite la vertu de prudence. Donc, je délibère à moi-même pourquoi je prends la décision que je prends. Un peu comme quand vous avez peut-être été vu voir votre patron, etc., et vous êtes allé demander une augmentation, et vous vous êtes dit à vous-même pourquoi vous allez faire, vous vous êtes formulé un discours à vous-même, ce qu'on appelle la délibération. Vous vous êtes dit à vous-même, je vais lui dire ceci, et il va me demander cela, et je vais lui dire ceci. Voilà, c'est ce discours intérieur, qu'on appelle délibération, qui fait que vous vous dites à vous-même, pourquoi je choisis telle personne plutôt que telle autre. Ça, c'est la délibération. Ensuite, le conseil. Le conseil, demander conseil, ne pas agir simplement sous le coup de l'émotion. Forcément, dans une relation amoureuse, on l'a vu, il y a beaucoup d'émotionnel, mais ce n'est pas ça qui prend le gouvernail. Demander conseil, alors, là aussi, il peut y avoir un excès, un défaut. Des gens qui demandent sans cesse conseil. De même, dans la délibération. Des gens qui se réfléchissent, mais pourquoi je fais ça? Un peu torturé, mais voilà, est-ce que c'est un pain au chocolat ou un pain au raisin? Et donc ils sont là devant le pain au chocolat, le pain au raisin. Mais est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ça... Au secours, mais... Oh là là, ça va être pénible de vivre avec des gens comme ça, mais bon, bref. Mais toujours est-il que, voilà, du coup, si c'est ça, je vous dis, vous, que ça va être pénible la vie. Donc, il y en a qui sont tellement, tellement. Non, parce que ça, bah forcément, que la question de la prudence se mêle aussi avec les émotions des personnes anxieuses, des personnes indécises. Mais ça, c'est du domaine de la sensibilité qui vient parasiter ensuite la prise de décision. Faites bien le lien entre les deux, hein, entre la question de la prise de décision et la personne que nous sommes, tant dans notre intelligence que dans notre sensibilité. Et donc, je trouve ça intéressant dans la délibération, on peut être sans cesse dans la délibération et des relations qui s'éternisent et qui s'éternisent, n'en finissent plus de s'éterniser. Bon, voilà, aussi, ça pose question. Hein, qu'est-ce que ça veut dire, ces relations qui s'éternisent et qui n'aboutissent pas. Hein, et puis, de même dans le conseil, des personnes qui vont sans cesse demander conseil, sans cesse besoin d'être rassurées, ce qu'on appelle la réassurance. C'est-à-dire que j'ai besoin de vouloir que l'autre me dise que c'est bien, et puis, mais je suis un peu anxieux de nature, je vais aller voir encore une autre personne, puis je vais encore une autre personne, etc. etc. Ou alors, au contraire, des personnes qui ne demandent conseil à personne. Hein, ça, c'est assez le défaut de la jeunesse. Non, non, moi je sais. Moi je sais. Très bien. Si tu as une cogitative bien formée, une intelligence bien connectée au réel, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a plus d'intelligence dans deux têtes que dans une. Et du coup, c'est intéressant aussi d'avoir l'avis d'une personne aînée dans la foi aussi, une personne qui d'expérience, etc. Donc je trouve que c'est intéressant de. Donc entre tout le temps demander conseil ou jamais demander conseil, justement. Donc, et puis de demander conseil, où il y a ceux qui demandent conseil, mais aux personnes inappropriées. Ils demandent conseil à la bonne copine qui est dans la même galère que toi, qui est complètement paumée, quoi. Je veux dire mais. Qu'est-ce que tu fais là, la pauvre fille? Elle te dit oui, ah bah oui, c'est vrai, il est sympathique. Non, mais elle n'y connaît rien. Elle ne pose pas les bonnes questions, si tu veux. Donc, du coup, ne lui demande pas conseil. Ou il y en a qui se confessent avec leur coiffeuse, etc. Bon. Non, mais je veux dire, bon, ou avec leur boucher. Bon, voilà, demander conseil à une personne appropriée, à une personne qui est formée pour ça, hein, pour accompagner bon, voilà, les aînés dans la foi. Ensuite, la question du passage à l'acte, ce qu'on appelle l'action. L'action, et là aussi, donc c'est la troisième étape de la vertu de prudence, n'oublions pas que le discernement ne vise pas simplement la réflexion, mais le discernement vise l'action. Action qui peut consister à dire je ne passe pas à l'acte. Ce que je vous dis là, c'est pour toute prise de décision, ce n'est pas simplement pour la décision de vivre en couple avec telle ou telle personne. C'est toute prise de décision fonctionne sous ce triptyque-là. Au plan professionnel, au plan personnel, bon, etc. Mais ensuite, n'oublions pas que le discernement vise le passage à l'acte, ne vise pas simplement la réflexion. Et il y a des personnes, qu'est-ce qu'on appelle les velléitaires, des personnes qui n'arrivent pas à passer à l'acte, n'arrivent pas. Et on le voit, par exemple, dans les relations amoureuses, ça peut se voir, des personnes qui sont un peu paralysées par l'engagement. Parce qu'il faut dire, tel que conçoit le mariage, l'Église le conçoit, le mariage, etc., c'est un mariage pour la vie. Et c'est vrai que c'est assez vertigineux. Je conçois. Et par rapport voilà, au zapping qu'on peut voir, on privilégie beaucoup plus les CDD que les CDI, et bien du coup, on peut tout à fait être dans une forme de crispation ou d'incertitude, d'anxiété, et ne pas passer à l'acte. Donc je trouve ça intéressant des personnes qui ont la difficulté, pour X raisons, de passer à l'acte et de. Ou alors qui passent à l'acte sans délibérer, sans demander conseil, tout de suite, uniquement sur le coup de l'intuition. Ça peut le faire, mais bon. Pourquoi c'est important de faire ces étapes de la vertu de prudence? Parce que quand viendra le moment, peut-être de la difficulté dans la relation? Vous aurez des raisons qui vous auront poussé à choisir telle ou telle personne. Et donc de faire mémoire des raisons qui ont dit oui, c'était tel homme, telle femme avec lequel j'ai voulu m'unir et former un couple et m'engager devant Dieu, c'était pour ces raisons-là. Tout mariage est un mariage de raisons. Tout mariage a des raisons, est poussé par des raisons. Il faut juste mettre les mots dessus. Et si on évite et le conseil et la délibération, c'est-à-dire les deux premières étapes de la vertu de prudence, et qu'on passe tout de suite à l'action sous le coup de l'impulsion, sous le coup de l'intuition, etc. Bon, peut-être vous y arriverez, ça peut, il y a des gens qui ont des intuitions, mais ce n'est pas parce qu'on a des intuitions qu'on n'a pas demandé conseil, qu'on n'a pas délibéré. On peut avoir des intuitions, une certaine spontanéité, mais ensuite. Souvent des gens qui sont que dans la spontanéité. Mais bon, voilà. Maintenant, en matière matrimoniale, c'est du long terme. Je pense que vous avez intérêt, entre guillemets, voilà, à vous, d'une certaine manière, une certaine humilité. Hein, parce que ça vous permettra, encore une fois, de faire mémoire. Ça vous permettra de dire, voilà, c'est bien pour ces raisons, ces raisons. Moi, je sais très bien pourquoi je suis rentré dans ma communauté. Communauté qui a subi beaucoup d'un tangage très fort, etc. Bon, comme beaucoup de relativement jeunes communautés, hein, on n'est pas. Voilà, donc. Bon, voilà, mais je sais pourquoi je suis rentré. Le fait d'avoir mis les mots et faire travailler l'intelligence donner des raisons pour lesquelles on a fait son choix, aide à perdurer et à traverser les épreuves. Et puis, donc, la prudence dans les décisions, qui est un signe de maturité. Et puis, la question de. Bon, dans la prudence dans les décisions, peut-être rajouter la question de la grandeur d'âme, qui fait partie aussi d'être capable, au fond, par amour pour l'autre, de se donner, voilà, de traverser un certain nombre d'épreuves. C'est intéressant de vous avez peut-être traversé des épreuves dans votre couple. Vous avez peut-être eu des moments de break, d'incertitude, je ne sais pas, ou pas, je ne sais pas, ensuite chaque couple a un peu sa manière d'agir et de réagir, de se dire que ces épreuves, en quoi ces épreuves ont pu me construire? Qu'est-ce que j'en ai tiré? En quoi elles ont pu peut-être purifier notre relation? Elles ont pu, oui, c'est ça, faire maturer notre relation. Qui était peut-être partie tout feu, tout flamme, etc. Puis on a eu telle épreuve, telle chose. On avait décidé de se séparer pour X raisons, par peur, par des paniques, etc. Puis on s'est remis ensemble. Bon, ça a été une épreuve pour l'un ou pour l'autre. Hein, mais cette épreuve est aussi une épreuve de foi. Hein. Je pense que c'est, dans une dimension spirituelle, c'est bien aussi de voir nos épreuves comme celle qui nous invite à creuser, quoi, à approfondir les choses. Et puis, la troisième signe de la maturité, la bonne appréciation des événements et des personnes. Les événements et les personnes. Parfois, on donne, et là aussi c'est le trop ou le pas assez, parfois on donne trop d'importance à telle personne. Parfois, je pense à un couple en particulier. Bon, finalement, je n'ai pas continué l'accompagnement, mais moi, je ne me sentais pas de continuer dans ces conditions. Il me dit, c'est à vous de nous dire, père, quand est-ce qu'on doit se marier? Ben non. Non. Moi, je refuse de rentrer là-dedans. C'est pas que je ne veux pas prendre mes responsabilités, mais ça, c'est votre responsabilité. Vous voyez, on a parfois donne à des. Ou trop d'importance à la vie familiale. Ou trop d'importance à la bonne copine, ou trop d'importance au père spirituel, etc. etc. Je sais pas, bon, on donne ou à un mentor, ou à une personne, c'est pour moi, ça c'est cette personne-là, bon, bon, c'est sûr on est marqué forcément dans notre vie par des personnes qui nous ont façonnés, qui nous ont structurés, qui nous ont fait grandir, etc. Mais bon, attention à un excès de confiance dans les personnes. Ou alors, par rapport à événements et personnes, par rapport à des événements, là aussi, donner trop d'importance à un événement, par exemple. Imaginons que vous avez eu une histoire avant celle dans laquelle vous êtes impliqué aujourd'hui. Et qui finalement s'est mal terminé, il y a eu rupture, voire rupture de fiançailles, etc. Bon, quelque chose d'assez traumatisant. Mais il y a des personnes qui donnent une importance telle à cet événement qu'ils ont du mal ensuite à se réengager. Ils ont du mal à réouvrir le cœur. Et du coup, je crois que c'est important, par rapport aux événements, de donner une place appropriée à ces événements. Hein, de ne pas être dans un excès de... Et je pense que c'est quelque chose qui... C'est justement dans une certaine juste mesure, d'où l'importance du conseil qui nous fait dire, est-ce que je donne trop d'importance à telle personne? Est-ce que je donne trop d'importance ou pas assez d'importance à un événement? Bon. Bon, il y a des ruptures à quelles on peut... Parfois, j'ai accompagné des couples où l'un ou l'autre a dû passer par un avortement, par exemple, dans sa relation antérieure. Bon, c'est pas anodin comme dimension, c'est quelque chose qui est lourd à porter, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est quelque chose qui est important. Non, c'est rien, non, c'est sous-estimer un événement important. Voilà, donc, juste pour... Le fait de se faire aider permet de donner une bonne appréciation à des événements et à des personnes, et sans aller dans le trop ou dans le pas assez, quoi. Alors maintenant, donc c'est après ces trois points qui j'allais dire, évoquent la question de la maturité, et voyant que vous avez coché toutes les cages de l'immaturité, pratiquement, alors c'est pour ça, pour éviter que, comme vous êtes dans l'état dépressif massif, là, actuellement, du coup, on a fait ça au rez-de-chaussée pour éviter que les gens se défenestrent, justement, pour... Voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas, voilà, envahi par un état, voilà, second de désespoir. Voilà. Bon. Maintenant, je vais vous donner les moyens pour grandir. Quels sont les moyens pour grandir? Une fois que vous avez peut-être vu en quoi se consistait la maturité et en quoi vous ne répondez peut-être pas aux critères de la maturité, quels sont les moyens pour grandir? Très certainement, comme moyen, bon, ce n'est pas exclusif, mais l'accompagnement. Modestement, dans le week-end, vous allez être accompagné par quelqu'un, une heure, ce n'est pas beaucoup, j'ai bien conscience, bon, mais qui peut vous donner des pistes, vous aider à réfléchir, vous poser des questions, auxquelles vous pouvez poser des questions, etc. L'idée, c'est de vous mettre au travail, d'avoir, bon, c'est souvent la première fois que vous rencontrez à deux une tierce personne. Souvent, pour la plupart d'entre vous, à l'étape du couple où vous êtes actuellement. Et donc, c'est sûr que la question de l'accompagnement, et on a la grâce dans l'Église de pouvoir être accompagné. Ça, c'est, on ne mesure pas assez ça, cette grâce-là. On n'est pas seul. On n'est pas seul. On est soutenu par des prêtres, des laïcs qui sont formés, des personnes qui sont à la fois dans une grande bienveillance. Et qui, voilà, nous aident à réfléchir, nous poussent, ne prennent pas la décision à notre place, mais nous poussent à aller plus loin, nous mettent au travail. Hein, nous permettent, vraiment, la question de la relecture, c'est se mettre au travail, par exemple. Donc l'accompagnement est une chose vraiment importante. Je trouve qu'une autre chose qui est assez basique, mais tirer les leçons de l'expérience. Il y en a qui se tapent en plantant un clou, qui se tapent toujours sur les doigts, mais bon, ils reprennent un marteau, hop, ils ne tirent pas les leçons de l'expérience. Et de même, en matière amoureuse, si vous avez eu d'autres relations antérieures, si vous êtes avec une autre personne, c'est que ça n'a pas abouti, quelle relecture vous avez de la relation antérieure? La question des ex. Autant... ça, j'aborde ça dans la préparation au mariage, autant je crois que c'est important de ne plus avoir du tout de contact avec les ex, vraiment brûler les ponts, voilà, parce que les infidélités, c'est entre autres avec des personnes connues, voire avec des ex, hein, et donc ça c'est important, mais autant c'est intéressant de se dire, tiens, pourquoi telle relation n'a pas abouti? Pourquoi dans cette circonstance, avec cette personne-là, pourquoi ça n'a pas abouti? Et en même temps, ça nous, tout en ayant un regard positif, c'est-à-dire, ça vous a formé, ces relations. Si vous avez eu d'autres relations amoureuses antérieurement, ça aussi vous a formé, ça vous a fait découvrir quelque chose de vous. Et pourtant, ça n'a pas abouti. Du coup, voilà, tirer les leçons de l'expérience. La question, autre point qui vous invite à mûrir, c'est le pardon. Le pardon, c'est-à-dire les rancœurs sont des obstacles à la maturité. D'avoir vous avez pu être blessé par des personnes, que ce soit de votre famille ou des personnes avec qui vous avez été en couple antérieurement, etc., et à qui vous avez un pardon. Vous faites la différence entre pardon et réconciliation. Le pardon est une démarche personnelle, la réconciliation est une démarche à deux. Mais parfois, l'autre ne se rend pas compte, ou alors l'autre est décédé, dans le cadre d'un parent, etc., qui nous aurait blessés, qui nous aurait humiliés, mal considérés, ou voire maltraités. Autant la réconciliation n'est pas possible avec une personne défunte, etc., ou quand l'autre ne reconnaît pas ses torts, mais le pardon est toujours possible, c'est une démarche personnelle. Et à quoi je vois que j'ai pardonné ? J'ai pardonné, je pense qu'il y a deux choses qui marquent le pardon. Premièrement, je pense à celui ou à celle qui m'a blessé, j'y pense paisiblement. Je ne pense pas à elle en train de la découper en morceaux, par exemple. Non, j'y pense plutôt paisiblement. Et je me réjouis du bien qui arrive à celui qui m'a blessé, comme je m'attriste du mal qui peut l'affliger. Oui, donc c'est deux critères qui montrent qu'on a pardonné. C'est penser à l'autre paisiblement, se réjouir du mal, se réjouir du non. C'est pour voir si vous suiviez. Se réjouir du bien qui le touche et s'attrister du mal qui l'afflige. Et non pas, oui, alors c'est à l'autre, vous apprenez quelqu'un vous a fait souffrir et qui a un cancer, enfin, il y a une justice sur terre. Là, j'y crois. Là, ouais, ben non. Là, t'as pas pardonné. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce que les rancœurs parasitent le discernement. Les rancœurs des personnes. On a pu être blessé dans nos vies. Voilà, ça peut arriver par un parent, par un ex, par un, ou quoi qu'est-ce. Bon, voilà, vous avez pu parfois être. Bon, d'autres noms sont plus préservés, mais. Le pardon, c'est ça. Il faut pas que cette relation où vous êtes soit un médicament par rapport à des relations blessantes par le passé. Mais et à la fois, vous posez-vous la question en quoi le fait de pardonner peut justement vous éclairer dans votre discernement. Un autre point, c'est pour grandir, cultiver ses talents. Développer ses talents, cultiver les bons côtés de sa personnalité. J'aime bien cet évangile du bon grain et de l'ivraie. Eh bien, je me dis souvent, tiens, mais si le bon grain occupe toute la place, il n'y a plus de la place pour l'ivraie. C'est-à-dire l'ivraie, c'est-à-dire la mauvaise herbe. Vous vous rappelez dans... c'est une parabole que donne Jésus dans l'évangile. Voilà. Quelqu'un est sorti la nuit et a semé de la mauvaise herbe là où le bon grain avait été semé. Bien dans notre vie, on prend conscience qu'on a peut-être de la mauvaise herbe, on prend conscience qu'on a du bon grain, des bonnes choses. Le fait de développer ses talents, développer ses charismes, développer toutes les grâces qu'on a pu recevoir, fait que ça laisse moins de place aussi à la mauvaise herbe, au mauvais penchant de notre personnalité. Ensuite, un autre point plus au plan spirituel, qui nous aide à mûrir, c'est faire l'expérience de l'amour de Dieu. Alors, je ne sais pas où vous en êtes au niveau spirituel, l'un et l'autre, mais découvrir en Jésus, que la foi ne soit pas juste des valeurs, je veux dire, moi, je ne suis pas toujours à l'aise quand on dit « moi, c'est les valeurs chrétiennes ». Je ne suis pas vraiment à l'aise. Dans le sens où la vie chrétienne n'est pas d'abord des valeurs. De même, la vie chrétienne n'est pas d'abord une morale. C'est d'abord une rencontre. Alors, cette rencontre, c'est une grâce. C'est découvrir la personne de Jésus comme une personne vivante. Dans mon cœur, il est, plus, comme dit saint Augustin, plus intime à moi-même que moi-même. Et notre fondateur, le Père Lamy, nous disait, laissez-vous aller à l'hôte divin qui habite en vous. Voilà, c'est nous prenons conscience, nous chrétiens, d'une présence en nous-mêmes, qui est aussi la présence de Dieu. Et du coup, je trouve ça important, cette expérience de l'amour de Dieu, d'une expérience d'un amour complet, total. Les amours humains, forcément, sont des amours limités, voire blessés, voire blessants. Il y a une manière d'aimer qui blesse. Mais l'amour de Dieu, lui, au contraire, me définit. Et si ton cœur t'accuse, rappelle-toi que Dieu est plus grand que ton cœur. Quoi. Voilà, c'est. Voilà, je trouve ça important dans la prière, de demander au Seigneur de nous manifester. Faites cette expérience. Là, il vous sera proposé dans la soirée un temps de. Une veillée d'adoration, donc avec le Saint-Sacrement exposé, hein, l'hostie exposée. Et puis aussi un temps de confession. Il y aura deux prêtres qui seront disponibles pour les confessions. Moi, je trouve aussi que ça peut être une belle démarche d'humilité, de vous mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. À deux, seul, je ne sais pas comme vous voulez. Là, devant tout le monde, vous montez dans l'allée, hop, et vous vous mettez devant l'autel, à genoux devant le Saint-Sacrement. Voilà, pour demander au Seigneur sa grâce. Hein, la grâce qu'il révèle son visage. Et ça, c'est très certainement une source de guérison intérieure. Parce que c'est l'amour qui guérit et nos blessures sont toujours des manques d'amour. Elles se traduisent comme ça en tout cas. Manque d'amour reçu, manque d'amour donné. Mais du coup, de faire ce geste d'humilité devant le Seigneur, de vous mettre à genoux devant le Saint-Sacrement, à deux, voilà. C'est vrai que ça demande de l'humilité, c'est peut-être pas, oui, moi je suis pudique, etc. Bon. C'est marrant, il y a des gens qui sont très pudiques par rapport à la foi, mais moins pudiques par rapport au pyjama, par exemple. Bon, c'est assez étonnant, mais bon, pourquoi pas. Mais oui, c'est vrai que la prière ne s'enracine pas dans les hormones. C'est peut-être ça la raison, entre autres, de la question. Mais je trouve, voilà, d'avoir une vraie dimension, voilà, d'un lâcher-prise, de vous présenter comme couple face au Seigneur et de faire demander sa grâce, de venir guérir vos blessures et de faire l'expérience. Voilà, c'est vraiment cette expérience de l'amour de Dieu qui nous fait grandir et qui nous porte au fond, qui nous fait avancer. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la question de la maturité. Alors, est-ce que ça a pu évoquer peut-être un certain nombre de questions ou